Philippe, la pandémie a bouleversé plusieurs économies, plusieurs entreprises. Le sport professionnel n'a pas fait exception, mais la baisse des revenus n'a pas été aussi brutale qu'anticipée.
Non, puis je pense que le sport professionnel, de façon générale, là, a bien mené sa barque dans les circonstances. Ce que j'ai apprécié, moi, ou le mérite que je reconnais, notamment à la Ligue nationale de hockey et à l'Association nationale de basketball, c'est de n'avoir jamais cessé d'y croire. Tu sais, quand bien des amateurs pensaient, beaucoup d'analystes aussi pensaient que la saison serait probablement annulée puis qu'on reprendrait ça éventuellement pour une nouvelle saison. Non, Gary Bettman, Adam Silver, ont continué de dire hey, « Non, on attend, on va voir, on va trouver des solutions. » Et finalement, ils en ont trouvé et ça a été des... Pour moi, là, quand on analysera le travail de Gary Bettman, quand il prendra un jour sa retraite, si cette journée-là arrive, parce qu'il est là depuis tellement longtemps, je pense que sa gestion de la pandémie sera au premier rang de ses accomplissements. Et on a Ray Lalonde avec nous, notre expert en sport business. Ray, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est un des grands coups dans la carrière de Gary Bettman?
Oui, absolument, Philippe. Je pense que Gary Bettman, on n'a pas toujours aimé sa personnalité. Puis au Canada, on pense toujours un petit peu qu'il est contre nous, là, comme pays, avec un sport national comme le hockey. Mais honnêtement, la business de la Ligue nationale de hockey, quand il est arrivé en poste en 1993, c'était 400 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est 5,2 milliards de dollars. Donc, il y a...
C'est pas juste l'inflation, là.
Non. C'est vraiment, là, écoute, des franchises d'expansion qui partent d'une à Vegas à 500 millions, puis la suivante à 650 millions, 2 ans plus tard. C'est un indicateur qu'il y a une énorme valeur pour les franchises.
US.
Puis tout va bien côté finance, de façon générale, pour la Ligue nationale de hockey. Puis la pandémie a affecté tous les produits sportifs, donc c'est normal. Mais sa réussite, comme Philippe l'a mentionné, c'était la complexité d'organiser des matchs de séries éliminatoires, de rondes qualificatives dans deux seules villes avec tout ce que ça voulait dire comme configuration. Bravo, Gary Bettman.
Ouais, parce que tu sais, quand on a commencé tout ça, le 12 mars, là, quand les saisons ont été suspendues, le concept de bulle, là, personne n'avait parlé de ça encore. C'était pas inventé. On pensait peut-être même reprendre les activités dans 2 semaines, dans 3 semaines, avec un peu de chance, comme quand on a fermé les écoles au Québec. Hein, ça fermait pour 2 semaines. Là, théoriquement, il y avait de la lumière au bout du tunnel. Puis on s'est aperçu que c'était pas ça. Mais moi, ce qui m'a impressionné, puis autant au niveau de la NBA, c'est l'adaptabilité de ces ligues-là. Comment tu penses qu'ils ont fonctionné, Ray, pour deviser ces scénarios-là? Est-ce qu'ils ont travaillé beaucoup avec des experts en santé publique? Est-ce qu'ils ont travaillé uniquement... d'abord avec leurs annonceurs, comment ils ont fait ça?
Bien, d'abord, ils ont les moyens. La Ligue nationale de hockey est riche, la NBA est encore plus riche. Leur revenu à eux, à la NBA, c'est près de 9 milliards de dollars US. Donc, ils ont les moyens d'avoir les plus importants experts dans la matière au niveau médical, au niveau épidémiologie, au niveau de toute la planification. Ensuite, ils ont des centaines d'employés qui travaillent dans l'aspect événementiel, qui ont été capables pendant des semaines, à partir du mois de mars, littéralement, de mettre sur pied des contingences, des options, des alternatives. Parce que le défi de la pandémie, ça a toujours été un défi d'être capable de s'adapter, comme tu as dit, Philippe, de s'ajuster quotidiennement, de pivoter, si on veut, d'une journée à l'autre. Alors, ils avaient les experts en place pour le faire.
Ray, là, ils avaient les experts, ils ont écouté les bons conseils. NBA, LNH, là, on s'est mis dans des bulles et ça a fonctionné à merveille. Ça a été dur, je pense, humainement pour les athlètes.
Oui.
Extrêmement dur, t'es loin de ta famille, tu peux pas sortir, etc. Parfait. Maintenant, là, pour la reprise des activités du calendrier régulier, pas la fin des saisons qui ont été perturbées, ça va être un peu plus difficile de faire des bulles pour des saisons régulières.
Oui, bien d'abord, c'est un bon point, Patrick, c'est trop coûteux, les bulles. Celle de la NBA a coûté à peu près 180 millions de dollars canadiens pour 100 jours dans une bulle. Alors, évidemment, ils ont sauvé une tonne d'argent, c'est-à-dire qu'ils ont réduit le manque à gagner, bien sûr. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut être répété parce que, tu l'as dit, trop pénible pour les joueurs, mais aussi trop complexe à gérer, surtout pour plus d'équipes, parce que là, ils en ont accueilli seulement 22 dans la NBA, 24 dans la Ligue nationale de hockey. Mais si tu allais avec une saison complète, avec ton alignement complet d'équipes, c'est 30 équipes, 31 équipes pour le hockey, 30 pour le basketball. Alors, la reprise, ça va se faire probablement, à mon avis, là, pour être réaliste, mi-janvier, début février, une ligue ou l'autre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore maîtrisé là, l'avenir, on ne connaît pas encore l'ampleur de la pandémie avec le temps froid. Même le refroidissement aux États-Unis qui est moins grave qu'ici. Alors, c'est difficile à dire comment on va pouvoir gérer ça, mais je peux t'assurer d'une chose. La NBA, contrairement à la Ligue nationale de hockey, n'est pas déterminée à jouer 82 matchs. Ils ont déjà accepté le principe qu'il va falloir s'ajuster puis compresser une fois de plus, Puis ça veut peut-être vouloir dire 60 matchs ou 70 matchs. Donc ça, c'est déjà admis. Je pense que le hockey va arriver à ça aussi, mais ils ne l'ont pas admis encore. Mais ça va être une reprise qui va être peut-être avec 2-3 phases. Une phase sans spectateurs, une phase avec quelques spectateurs. Puis peut-être au printemps, l'été prochain, finir la saison avec les gradins remplis, on le souhaite.
L'idée d'une division canadienne pour la Ligue nationale de hockey, là, pour éviter des déplacements d'outre-frontière des deux équipes, des deux côtés de la frontière, a circulé. Penses-tu que c'est une rumeur qui est un peu fondée?
C'est la seule option possible, Patrick. À court terme, c'est la seule option. Il n'y a pas de traversée de frontières et il ne peut pas avoir cette espèce d'aller-retour pour un sport. La NFL fait des choses, mais c'est un match par semaine. Mais tu voyages d'une ville à l'autre, puis c'est déjà compliqué. Il y a des cas.
Et puis on le voit là, avec les équipes, les cas, ça explose. Là, à chaque semaine, c'est une nouvelle équipe qui est aux prises avec un cas de COVID puis qui doit fermer ses installations d'entraînement pour 2 jours, 3 jours, 4 jours.
Alors moi, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des divisions nouvelles, exceptionnel pour une saison peut-être, dont une division canadienne. Puis on va jouer contre les Canucks de Vancouver plusieurs fois par année. Ça va pas être facile en passant juste sur le côté compétitif pour les Canadiens de Montréal dans ça, parce que les équipes canadiennes sont pas mal.
Elles sont très fortes.
Ouais. Alors ça va être difficile de faire les séries avec ça. Ceci étant, ça c'est un autre sujet.
Ouais, mais je vais juste revenir, Ray, avant de, plutôt que de tomber là, dans le sport, puis on aura amplement l'occasion de parler des chances du Canadien dans une division canadienne. Là. Je veux juste revenir à ce que tu disais tantôt. Puis tu sais, je suis d'accord avec toi. On a toujours eu cette impression que Gary Bettman, tu sais, regardait parfois un peu de haut le Canada. Tu le mentionnais d'entrée de jeu. Mais tu sais, il y a du vrai, il y a beaucoup de vrai là-dedans. Puis moi, ce que je trouve particulièrement ironique, c'est que quand Gary Bettman a besoin du Canada, là, il ne se gêne pas, par exemple. Puis je vais vous donner, Patrick Ray, 2 exemples. D'abord, 2016, il organise une Coupe du monde de hockey en plein mois de septembre, pendant que toutes les ligues sont en le baseball, le football, ça roule. Où est-ce qu'il décide de faire son tournoi? À Toronto, parce qu'il sait que c'est seulement au Canada qu'on va attirer, qu'on va remplir un amphithéâtre. Alors là, le marché canadien, tiens, subitement, il devient intéressant. On arrive en 2020, la COVID frappe, et puis là, où est-ce qu'il décide de faire ses villes bulles? À Toronto et à Edmonton. Encore une fois, tout à coup, ah tiens, le Canada, ben oui, ils sont dans notre ligue, eux autres, ils vont être très utiles. Tu sais, parce que
c'est où la carte géographique,
ben oui,
ça?
La pandémie est plus sous contrôle ici. Alors moi, c'est ce que je n'aime pas de Gary Bettman, c'est de se servir du Canada quand ça lui tente, mais tu sais, souviens-toi de son visage quand il a annoncé le transfert de l'équipe des Trashers Atlanta à Winnipeg, c'est comme s'il y avait la mort dans l'âme. Absolument. Puis on sait comment ils considèrent Québec.
Mais Philippe, tu connais l'histoire aussi bien que moi là-dessus. Puis tu as raison dans ce que tu dis, mais je vais te donner un petit peu d'objectivité dans ça. Pour avoir travaillé dans des ligues, tu travailles pour l'ensemble, le collectif, le succès de tout le monde. Quand tu travailles dans une ligue comme ça, puis j'ai travaillé dans une équipe aussi qui était au Canada. Alors, je peux te dire une chose. La Ligue nationale de hockey ne peut pas survivre sans le succès des 7 équipes canadiennes qui représentent un énorme pourcentage de l'argent qui circule dans la NHL. Bon, mais d'un autre côté, si on veut augmenter le niveau de valeur de cette ligue-là, il faut que ça réussisse aux États-Unis. Donc forcément, il faut investir du côté américain, il faut bâtir le hockey, investir chez les jeunes, développer des jeunes, puis rendre les États-Unis encore plus compétitifs.
Bien d'accord, mais peut-être qu'on ne pourrait pas se moquer autant des fans canadiens. T'sais, regarde juste la participation aux Jeux olympiques. Là, on n'est pas allé en 2018. À qui ça fait mal? Qui voulait que les joueurs de la Ligue nationale... Est-ce que c'était les Américains ou les Canadiens d'abord avant tout qui voulaient voir les joueurs aux Jeux olympiques? C'était les Canadiens, c'était pour nous autres que c'était important.
Oui, mais c'est important le patriotisme américain, comme tu le sais aussi.
Ouais, mais moi, défendre, au hockey.
Je veux pas défendre Gary Bettman, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder toujours son défi, c'est qu'il y a 24 propriétaires américains. Alors, il est obligé d'investir de ce côté-là en termes d'énergie puis d'émotion. Ça veut dire des fois qu'il fait des choix qui ne nous satisfont pas au Canada. Mais je le sais très bien, il le sait lui aussi, qu'il a besoin du Canada pour réussir.
Il faut bien que les équipes canadiennes contribuent à faire vivre ces clubs américains qui traînent la patte.
C'est ça, la vraiment intéressant. En tout cas, il y a eu beaucoup d'ingéniosité du côté affaires et du côté logistique. Merci beaucoup, Ray.
Merci, salut. Messieurs. Bonne journée.
Ray Lalonde, qu'on entend souvent sur nos ondes pour parler du sport et de la business, notamment chez Paul Arcand le matin. Madame Beauchamp, on va parler de bijoux de famille au retour.
Oui, on va parler des bijoux de famille de Charles Lafortune. On va discuter avec lui de sa nouvelle émission, une émission qui entremêle le stand-up et le talk show.
Pensez pas croche.
Non, mais je suis sûre que tout le monde l'a fait quand même.
Je pense que le titre est choisi pour ça aussi, hein? 16h35.